Bonjour et merci d'être fidèle au grand face-à-face tous les samedis. Vos rendez-vous jusqu'à 13h, la semaine des humoristes de France Inter, le duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein. Et puis, famille, je vous hais, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules se profile, inscrite par le Premier ministre à l'agenda des réformes à venir. Mais l'exécutif veut éviter à tout prix un remake de la bataille du mariage pour tous. L'histoire dira s'il y parviendra. Une chose est sûre, les caricatures ne doivent pas masquer de vrais sujets qui devront être discuté. Le sujet des liens de filiation, celui de la congélation des ovocytes par exemple. Certains des opposants au texte refusent que le désir d'enfant devienne un droit. Natacha Polony soulevait la semaine dernière dans l'émission la question du remboursement de la PMA par la Sécurité sociale. Alors la PMA pour toutes est-elle un progrès humain et social? Pour en débattre, rendez-vous avec l'une de nos grandes sociologues. Elle a inventé l'expression famille recomposée il y a une trentaine d'années. Irène Théry nous rejoindra tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour la dernière de l'année, mais pas la dernière tout court, puisqu'on se retrouvera à la rentrée, évidemment. Bonjour à tous les deux. Avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par François Audouin. Dès lundi, 2000 volontaires commençaient leur SNU, le service national universel promis par le candidat Emmanuel Macron. Pablo Mira a recueilli les premières réactions.
Pierre-Louis, c'est l'un des 2000 volontaires de ce SNU. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Pierre-Louis.
Salut Pablo.
Donc toi, si je comprends bien, tu as 16 ans, tu habites dans l'Eure et tu vas passer 12 jours en Guyane dans le cadre de ce service. C'était important pour toi, cette démarche civique?
Ah ouais, à fond. En fait, l'idée c'est vraiment d'aller vers l'autre. On s'en fout de l'origine, des couleurs, des classes sociales. Le but, c'est d'être tous ensemble et vraiment de se mettre une grosse race sous les tropiques.
Ouais, non, mais d'accord, ouais, mais je veux dire, parmi les activités civiques qui sont proposées, est-ce qu'il y en a une que tu attends un peu plus que les autres, peut-être?
Ah bah carrément, j'ai vu qu'il y avait un parcours d'acrobranche citoyen et puis une séance de paintball républicain, et ça, j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être.
Ouais, d'accord. Eh bien, écoute, on te souhaite un bon service et puis on espère que ça se passera bien pour toi.
Ouais, t'inquiète, Pablo, hein, j'ai pris des capotes. Inside. C'est pour Ken.
Ouais, ouais, merci. Ouais,
ouais. Ken, ça veut dire baiser. Hein. Ouais. Je vais baiser de ouf. Mais de manière citoyenne. Hein.
Ouais, très bien, merci. Allez, on a compris le message.
Semaine importante aussi, évidemment, pour les candidats au bac, avec cette première épreuve, la philosophie, c'est la tradition. Guillaume Meurice est allé tester les sujets 2019 auprès des Français.
Les politiques n'ont-ils aucune morale? Ou plutôt, comme le proposait un sujet du bac, la morale est-elle la meilleure des politiques?
Je pense que la morale n'est pas la meilleure des politiques.
Ouais, pourquoi alors?
La morale, oui, je dirais non comme ça, à peu près par point. Trump, par exemple, il s'en sort pas si mal que ça. Poutine, il s'en sort pas si mal que ça. Vous allez en Chine, c'est pareil. Hein.
Donc vous auriez fait des citations de Trump, Poutine?
Oui, j'aurais été chercher des exemples concrets, tout à fait.
Voilà, voilà. Alors je suis désolé pour tous les lycéens qui ont préféré citer Kant ou Montesquieu, mais non, c'était Trump et Poutine qu'il fallait citer. Autre sujet du bac philo, le travail divise-t-il les hommes? Qu'en pense ce philosophe?
Bien sûr qu'ils divisent les hommes.
Ah,
mais bien sûr.
Pourquoi?
Celles qui font le tapin. Celles qui font le trottoir.
Qu'est-ce qu'elles font, celles qui font le trottoir?
Elles divisent les hommes.
Ah! Parce qu'après, les hommes s'engueulent.
Bah oui, c'est ça le problème.
La prostitution divise les hommes, alors.
Exactement.
La prostitution, c'est un travail, donc le travail divise les hommes.
C'est
un...
Ouais, exactement.
C'est brillant.
Ah oui, ça c'est brillant.
Hein. Eh oui, il fallait donc répondre oui. Il fallait citer les travaux du philosophe Dominique Strauss-Kahn et son excellent ouvrage Féminisme et Carlton, préface de Dodo La Saumure, dans lequel il explique très bien comment il allait accéder au pouvoir juste avant de se prendre les pieds dans sa teub et de chuter, entraînant ainsi la victoire de François Hollande et l'éclosion de Macron et des Gilets jaunes. Hein, donc on peut dire que s'il y a aujourd'hui des gens qui ont perdu un œil, c'est à cause de la teub de Dominique.
Dans l'actualité aussi, la présentation de la réforme de l'assurance chômage, une annonce qui a pris de court Charline Vanhoenacker.
J'étais pas du tout au courant, moi, pour l'assurance chômage. Ben hier, Radio France était en grève. Moi, j'ai tout loupé l'info. Hein. Bon, on va se faire licencier parce qu'on doit faire des économies à Radio France. Et une fois au chômage, on va gagner moins parce qu'il faut faire des économies sur les chômeurs. Et puis le jour où on va en crever, on va nous annoncer une réduction de la couverture maladie. Ça y va fort, quand même. Hein. Le gouvernement a même réussi à foutre la CFDT en colère. C'est dire, hein. C'est une blague France Inter. Il y a que les auditeurs qui la comprennent, celle-là. Et en plus, Dominique Seux a raison. Alors là, on est foutu. On est vraiment foutu, là. Non, c'était sûr que l'État allait nous griller. hein, il voit bien qu'il y a des économies à faire ici. Bah, il n'y a rien qu'à voir Domi, là, tous les matins, il vient en costard avec une chemise propre. Il nous a fait repérer, ça, c'est sûr. Rigolez pas, Marie-Pierre, vous aussi, hein, regardez la planchon là, avec ses t-shirts en strass, évidemment. Alors, moi, jusqu'à présent, je m'en foutais de me retrouver au chômage. Parce que d'après le gouvernement, on gagne mieux au chômage qu'en travaillant. Mais là, s'il commence à réduire les indemnités, on va pas s'entendre. Parce que moi, je me voyais déjà avoir le temps d'aller manger au Phuket, c'est que mes copains chômeurs. Ou placer mes indemnités au Panama. Ben, maintenant, ça me paraît compromis.
Et toujours sur le même thème, Daniel Morin a suivi de près le discours de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Allez, avant de se quitter, les amis, je voudrais rendre hommage à la sincérité, parce que c'est pas tous les jours de certains politiques. Hier à Matignon, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, s'est exprimée pour présenter les grandes lignes de la réforme de l'assurance chômage. Elle devait conclure son propos par ces mots. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et contre la précarité. Malheureusement, dans sa bouche, il y a eu un petit bug. Hein. Elle a dit ça.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
Oh là 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 là, pour la précarité, ya ya ya. Bon, attendez. C'est pas n'importe qui, elle s'est rattrapée brillamment.
Et contre la précarité, pardon.
Non, oui, c'est brillant, mais c'est trop tard, madame. J'imagine tellement ce qui s'est passé dans la tête d'Edouard Philippe quand il l'a entendu.
Contre le chômage et pour la précarité.
Quoi ? Elle a dit quoi ? Pour la précarité ? Non, mais elle est conne ou elle est conne ? Mais non, monsieur le Premier ministre, elle est fatiguée, c'est tout. Vivement les vacances pour tout le monde, enfin, pour ceux qui pourront s'en offrir.
C'était la semaine des humoristes de France Inter et des sujets dont on va avoir l'occasion de débattre avec vous deux à suivre dans le grand face-à-face, le duel.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Et nous ferons en sorte que cette Amérique reste grande. Oh oui, on va la rendre meilleure que jamais. Et c'est pour cela que ce soir, je me trouve devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat en tant que président des États-Unis.
C'était mardi à Orlando, en Floride. Donald Trump annonçait donc officiellement qu'il serait candidat à sa réélection. Un meeting devant plus de 20 000 militants chauffés à blanc. Est-ce que la présidentielle américaine de 2020 sera la répétition de celle de 2016, Gilles ?
Elle ne sera pas la répétition parce que les candidats démocrates seront, ce ne sera pas Hillary Clinton, et c'est un élément très important, et parce que Donald Trump est président sortant, il n'est pas l'outsider sorti de nulle part auquel personne ne croyait. Donald Trump est dans la position classique du président américain à l'issue de son premier mandat qui cherche à se faire réélire. Et
la plupart réussissent d'ailleurs à se faire réélire, à quelques exceptions, comme Carter par exemple, George Bush père.
Absolument, à quelques rares exceptions, donc ce qui fait qu'il est d'une certaine manière en position de force, mais c'est loin d'être vrai, d'être joué. Pour l'instant, il a réussi à éviter deux écueils auxquels sont traditionnellement confrontés les présidents dans une telle situation. Le premier, c'est de se défendre, c'est de penser à tort qu'on gagne une élection sur un bilan. Il a très peu parlé de son bilan. Et le deuxième, c'est d'attendre. Il n'a pas voulu, et c'est pour ça qu'il lance sa campagne, d'une certaine manière il ne l'a jamais arrêté, mais qu'il lance sa campagne aussitôt, on est très loin de l'élection, parce qu'il n'a pas voulu que les primaires démocrates occupent tout l'agenda.
Et les primaires démocrates qui devront normalement aboutir à la désignation d'un candidat dans un an et demi, donc il a quand même un long chemin à faire tout seul, Natacha.
Oui, mais premier point, en effet, là où Gilles a raison, Donald Trump est à l'aise en campagne, il n'est jamais plus à l'aise qu'en campagne. Deuxième point, même si on ne gagne pas une élection sur un bilan, l'économie américaine se porte bien et Donald Trump, de ce point de vue-là, peut se prévaloir de promesses qu'il aurait tenues. Et troisième point, et à mon avis, c'est sans doute le plus important, la question de savoir si les démocrates ont tiré la leçon de l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'ils vont reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire se focaliser sur un discours sectoriel à des minorités précises, minorités ethniques, minorités sexuelles, minorités religieuses, ou est-ce qu'ils vont être capables de produire un projet pour une communauté nationale ? Ce que Hillary Clinton avait échoué à faire, qu'elle n'avait même pas cherché à faire. Or là, justement, la façon dont vont se passer les primaires démocrates va nous donner un petit peu le ton. Pour l'instant, ce qui se dessine, c'est que certains n'ont absolument pas compris et continuent à être dans une forme de, on va dire, d'obsession sociétale au lieu de comprendre comment contrer Donald Trump sur les sujets qui sont les sujets économiques, qui sont les sujets géopolitiques et deuxième aspect qui les obsède, l'impeachment face à Donald Trump. Et là encore, ce n'est sans doute pas la meilleure façon de conquérir le peuple américain.
Gilles.
Oui. Premier point, Donald Trump à l'aise en campagne. Souvent, on voit qu'il y a une dissociation entre la conquête et l'exercice du pouvoir. Pour résoudre cette contradiction, il y a un certain nombre de responsables politiques vertueux qui essayent d'être aussi responsables dans la conquête qu'ils le seraient dans l'exercice. Donald Trump, c'est exactement le contraire. Il est aussi irresponsable dans l'exercice qu'il est dans la conquête. Donc, il y a une grande continuité. Deuxième point, l'économie, vous avez raison de le dire, c'est souvent un élément déterminant aux États-Unis, de savoir quel est le taux de croissance, quel est le taux de chômage. Là, à 18 mois de l'élection, position de force. Mais c'est fragile parce que la difficulté, le risque qu'a pris Donald Trump, c'est que il y a une politique qui est très, très laxiste sur le plan budgétaire. Le jour où ça se retourne, on ne sait pas comment.
Alors,
ça se passe.
Alors comment expliquer
Dernier point, peut-être les démocrates.
Oui, justement, ils sont 21 candidats à la candidature.
Ils sont 21 avec un favori, malgré tout, qui est loin devant les autres, qui est Joe Biden. Joe Biden,
ancien vice-président de Barack Obama.
Beaucoup des défauts, des faiblesses que pointait Natacha. D'abord, il est vieux. Il aura 78 ans s'il prend ses fonctions au début 21. Il est usé. Il a été élu pour la première fois quand Nixon était président des États-Unis. Et il est assez daté, c'est-à-dire que daté notamment sur le plan stratégique, c'est-à-dire de la vieille technique de triangulation des démocrates américains, disant qu'il faut être assez conservateur sur les questions de société et assez libéraux sur les questions économiques. Il n'est pas sûr que le centre de gravité du pays soit aujourd'hui celui-là.
Et pourtant, Donald Trump est donné perdant par tous les sondages, quelle que soit la fiche démocrate, en tout cas face à toutes les têtes d'affiche, Joe Biden, Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Il serait battu à tous les coups, c'est assez curieux et plutôt difficile à analyser vu d'ici.
Oui,
Natacha.
Non, d'abord, il faut se souvenir que Donald Trump avait moins de voix qu'Hillary Clinton. Il a simplement, pour être élu, ciblé les États où il fallait qu'il arrive en tête. Et nous avons trop tendance...
D'où la Floride.
Nous avons trop tendance ici en France à croire que le président des États-Unis est élu au suffrage universel direct. Non, pas du tout. Et ça implique une modification complète de la façon de faire campagne. Deuxième point, en effet, il est donné perdant pour l'instant, mais il n'était pas donné gagnant. La première fois, il a surpris et il faut se méfier de l'habitude qu'ont les médias et parfois les instituts de sondage de prendre leurs rêves pour des réalités, c'est-à-dire de croire que parce qu'ils ne veulent pas de Donald Trump, forcément, celui-ci va être perdant.
En tout cas, la course à la présidentielle américaine de 2020 est lancée. À suivre, on revient en France.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'est un moment de cohésion. Moi, depuis trois jours, je suis allé à la rencontre des jeunes. Je suis allé dans le centre du Nord, du Cher, de l'Eure. Je serai dans le Val d'Oise aujourd'hui, dans le Morbihan et dans le Vaucluse en fin de semaine. Et ce que je constate, c'est qu'on a des jeunes qui sont venus à la recherche de partage avec des jeunes qui viennent d'horizons sociaux, d'horizons géographiques totalement différents.
Gabriel Attal, le Benjamin du gouvernement, secrétaire d'État en charge du SNU. Et c'est parti, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Le service national universel se profile. Une phase pilote était donc lancée cette semaine avec 2000 jeunes. À terme, le SNU sera obligatoire pour tous les jeunes Français de 16 ans, obligatoire au moins pour un mois. Une autre partie sera facultative pour ceux qui souhaitent s'engager, par exemple, dans une association, une ONG. Curieusement, le SNU est déjà sous le feu des critiques, Natacha. Pourquoi ? Parce qu'il ressemblerait trop à une sorte de service militaire light ?
Il est sous le feu des critiques depuis que l'idée a été lancée, et alors même qu'elle était à l'époque totalement floue. Il y a ceux qui, en effet, estiment que le fait même de mettre des jeunes gens en uniforme est déjà crypto-fasciste. Et puis, il y a ceux qui considèrent que c'est pas en réunissant des jeunes pendant un mois, en leur produisant une sorte de catéchisme républicain assez gentil, qu'on va régler les problèmes de cohésion nationale et la façon dont on peut forger une communauté.
Quand vous dites certains, vous comptez parmi eux ?
Non, disons que je pense qu'il doit y avoir une voie médiane entre les deux. Et qu'il y a évidemment des défauts absolument majeurs dans la façon dont est organisé ce service national universel. Et on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord, d'ailleurs, sur la question de savoir si il était regrettable d'avoir abandonné un véritable versant militaire ou pas. Je pense qu'il y a des questions extrêmement vastes là-dedans et qu'il faudrait prendre point par point.
Gilles ?
Oui, moi, je suis très sceptique sur le service national universel. Je crois que l'intuition ou l'intention de départ était juste le constat qu'il y a une perte du commun, qu'on est dans une société plus individualisée, plus archipélisée, pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet, et qu'une des explications peut trouver sa source dans la suppression du service militaire. Peut-être. La question, c'est est-ce que les moyens qui ont été choisis sont les meilleurs? Je pense pour le commun, pour recréer du commun, c'est l'école, d'abord l'école. Et si on veut recréer de l'engagement, il y a quelque chose qui marche formidablement bien, qui s'appelle le service civique, qui s'est développé...
Qui existe déjà depuis beaucoup, quelques années.
Qui a été créé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui s'est beaucoup développé sous le quinquennat de François Hollande. Il y a aujourd'hui plus de 120 000 chaque année en service civique. Si on a de l'argent à mettre, parce que tout ça va coûter 1,5 milliard, peut-être davantage. Je crois que c'est d'abord sur l'école et sur le service civique qu'il aurait fallu le faire.
Natacha.
Alors, encore faut-il en effet que nous acceptions l'idée que l'école est là pour forger le creuset de la nation, en plus d'émanciper les citoyens par le savoir. Ce qui, pour l'instant, et depuis des années, n'est pas exactement l'orientation qui est prise. Donc déjà, en effet, il faudrait se pencher sur cette question-là. Après, sur la question du service civique, le problème, c'est que le service civique est volontaire. Et le nœud principal, c'est de savoir si la collectivité est capable, à un moment donné, de demander aux individus de donner de leur temps et que les individus comprennent qu'ils se doivent à cette collectivité. C'est tout l'enjeu. Or, je pense, pour ma part, qu'il est nécessaire que cette initiative soit obligatoire pour nous rappeler que nous avons des devoirs envers les autres.
Et que ça dure un mois, pour le coup.
En revanche, après, j'évoquais la question de savoir s'il fallait repenser un service avec une dimension militaire ou pas. En tout cas, je crois que tout le débat, c'est de savoir si nous ne devons pas aussi avoir une dimension de défense civile. C'est-à-dire que dans le fait de créer des devoirs envers la collectivité, il y a aussi la question de savoir ce qu'on est prêt à défendre et comment on veut le défendre. Donc je regrette, moi, que cette dimension-là ait été quand même largement abandonnée.
Encore un mot, Gilles ?
Encore un mot. Ça dure un mois. En réalité, ça dure 15 jours pour la partie qui se fait vraiment en collectivité, voire un peu moins de 15 jours. Franchement, qui peut penser que cela va avoir un effet réel? Le service civique, il est facultatif. Il ne tient qu'aux moyens qu'on y met, à la volonté qu'on y met de faire en sorte qu'il soit davantage développé. Et on peut même réfléchir, il y a eu le débat dans le quinquennat précédent pour savoir si ce service civique doit être obligatoire ou pas. Mais à la fois dans l'intérêt pour la société et dans l'intérêt pour les jeunes qui y participent, je crois qu'il n'y a pas photo.
Non mais je suis entièrement d'accord, Gilles. Encore fallait-il s'entendre, en effet, sur l'idée de rendre obligatoire le service civique. Or, souvenez-vous, systématiquement, quand on a évoqué ce genre de choses, on avait des levées de boucliers, notamment des syndicats étudiants, des syndicats de lycéens, disant mais c'est un scandale d'obliger les jeunes. Et pourquoi ce serait les jeunes? Parce que les jeunes sont des futurs adultes, tout simplement. Mais ça, c'est un discours qui est visiblement assez compliqué à tenir, et c'est bien dommage. En effet, le service civique est une très bonne initiative, mais pour l'instant, ceux qui s'y engagent sont, j'allais dire, ceux qui sont déjà intégrés, ceux qui en auraient le moins besoin. Alors, il y a des très grandes réussites, mais le fait que ce soit obligatoire permet de récupérer tout le monde, permet d'intégrer, d'insérer tout le monde.
Pourquoi non, Gilles ?
Non, parce que je suis allé à l'Institut du service civique il y a un an, voir une formation complète des jeunes qui étaient en service civique. La diversité est très importante. Et pour beaucoup de jeunes issus des milieux populaires, c'est un vrai marchepied. C'est à la fois la discipline qu'on peut retrouver dans un service classique, mais c'est aussi le fait de s'intégrer dans un collectif et de faire des choses et de faire des choses.
C'est ceux qui veulent déjà s'intégrer, qu'ils soient issus de milieux populaires ou pas. La question, c'est comment on fait pour faire passer le message à des jeunes gens que nous avons tous vocation à nous intégrer, que la République n'oublie personne et que eux aussi doivent vouloir s'intégrer à cette communauté nationale. Et ça, il n'y a rien de plus complexe. Donc bien sûr que je crois que ça passe par l'obligation pour tous.
L'uniforme vous séduit ?
Non, l'uniforme ne me séduit pas. Enfin, c'est pas une question de séduction. C'est que je pense que l'uniforme, là aussi, n'a rien de... Enfin, c'est pas pour écraser les individualités. C'est pour faire comprendre que nous avons quelque chose en commun et pour faire comprendre, c'est souvent le débat qu'on a sur la question du vêtement commun à l'école, c'est pour faire comprendre qu'on se distingue par son esprit et pas par son apparence.
Oui, non, sur l'uniforme d'un mot, quand le service militaire, enfin la dimension militaire,
ça ne vous a pas donné envie d'aller en acheter un et de le porter.
Il y a un uniforme, non, pas encore. Allez, donc il y a une dimension militaire. Évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que qui est en charge du service national universel, ce n'est pas la défense.
Ce n'est pas la défense,
c'est le ministère de la Jeunesse. Et ce n'est pas la défense précisément parce que la défense n'en voit pas. L'utilité n'a plus les locaux, n'a plus les moyens.
Dans l'état actuel, non, c'est vrai.
Et donc, voilà, c'est un ersatz, un petit, pour l'instant, un petit bout de truc.
Ils n'ont pas vocation à organiser des colonies de vacances et ils n'ont aucune envie d'être les seuls à supporter le fait qu'il y a une carence d'intégration dans la communauté nationale.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Ça a fait beaucoup rire, ça a fait rire les humoristes de France Inter, mais ça a fait rire aussi dans ce studio, parce que c'est sans doute l'un des plus beaux lapsus politiques de l'année, l'un des plus beaux lapsus politiques tout court, je pense.
C'est terrible.
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui présentait cette semaine les grandes lignes de la réforme de l'assurance chômage. Bon, ça nous fait sourire, mais le reste, pour le coup...
Ça s'appelle le retour du refoulé. C'est bien le problème.
Le lapsus est-il révélateur ?
C'est toute la question. Et de fait, cette réforme, même s'il y a des dimensions qui peuvent être tout à fait nécessaires, a un axe qui est un axe très frappant, qui est en gros l'individualisation de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on fait porter sur chaque individu le fait de savoir s'il a été suffisamment actif ou pas pour s'en sortir. Derrière ça, il y a une logique très terrible.
Juste rapidement pour préciser les choses, la ministre du Travail présentait sa réforme en deux volets. Le premier volet avec de nouveaux droits à la formation, une assurance chômage qui serait ouverte aux salariés qui démissionnent. Deuxième volet, un régime d'indemnisation qui sera durci avec un objectif qui est clair et net, c'est faire des économies drastiques, Gilles.
Oui. La semaine dernière,
tous les syndicats s'y opposent.
Absolument.
Même le MEDEF.
Absolument. La semaine dernière, j'avais été assez positif sur le discours d'Emmanuel Macron à l'OIT et même attentif sur un certain nombre de réformes sociales, la réforme des retraites ou le revenu universel. Là, j'ai été critique sur le service national universel et je le suis davantage encore sur l'assurance chômage. Qui est la volonté de réduire les déficits ? On a l'ensemble des comptes sociaux qui sont en difficulté et davantage en difficulté que ce que l'on escomptait. Ça me paraît légitime. En revanche, dans cette affaire, la démocratie sociale a été malmenée, c'est-à-dire que on a ouvert des négociations, mais avec une lettre de cadrage du président de la République qui rendait l'aboutissement de cette négociation absolument illusoire, et on a un équilibre politique qui est un déséquilibre politique dans la continuité de ce que l'on a vu. C'est-à-dire que, vous disiez, c'était du « en même temps », la jambe gauche est quand même assez atrophiée, dans la mesure où l'ouverture des droits pour les démissionnaires, elle est quand même très restreinte, dans la mesure où le bonus-malus est très limité, il est limité à un certain nombre de secteurs, et que dans l'autre sens, la jambe droite, elle est très musclée, et notamment sur un point, c'est que l'entrée dans le régime de l'indemnisation du chômage, notamment pour les jeunes, notamment pour les plus précaires, a été considérablement durci. C'est d'abord eux qui vont supporter la réduction du déficit de l'assurance chômage.
La dimension que vous évoquez, Gilles, est tout à fait juste, en particulier sur la question de cette fameuse protection des démissionnaires. C'est-à-dire, il faut se souvenir que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et une promesse qui a fait partie de celle qui était emblématique du macronisme. C'est-à-dire qu'il y avait ce message adressé aux citoyens qu'on allait ouvrir des droits supplémentaires et qu'on allait modifier totalement la logique de l'indemnisation par ces réformes, mais dans le sens aussi d'une sécurité, dans le sens d'un dynamisme. C'est-à-dire, c'était, et je pense que ça fait partie des promesses avec la question de la taxe d'habitation, qui ont emporté le morceau, qui ont poussé des gens à voter pour Emmanuel Macron. Qu'ils ne tiennent pas cette promesse-là me semble très grave.
Sur la méthode, Gilles, ce qui est assez frappant, c'est de voir que le gouvernement peut passer outre l'opposition d'absolument tous les syndicats. La réforme passera.
La réforme passera. Pour le coup, il y a une grande cohérence d'Emmanuel Macron sur cette question. Il considère depuis de très nombreuses années, y compris il l'avait dit lorsqu'il était ministre de l'économie, que l'assurance chômage, c'est l'État qui en est le garant en dernier ressort, et que c'est à l'État de gérer et que c'est pas aux partenaires sociaux. Donc, on arrive exactement au point où il voulait qu'on arrive. Tout le monde, tous les syndicats, patronaux et syndicats, et salariés sont contre la réforme. La question est de savoir quelle est l'opinion de l'opinion. Et pour l'instant, l'opinion est avec lui. La question, c'est quand les détails de la réforme, et notamment ce durcissement pour les plus fragiles, sera davantage connu, est-ce que cette opinion est stabilisée ou pas ?
Oui, avant de passer au débat.
Ceux qui sont contre cette réforme ne le sont pas tous pour les mêmes raisons. Parce que si vous regardez par exemple les petits patrons, indépendants, artisans, commerçants, en fait, le point essentiel qu'ils réclamaient, c'était justement cet allongement de la durée qu'il faut avoir cotisé pour pouvoir obtenir des droits. Il y a un léger allongement, mais ils jugent, eux, que c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que beaucoup estiment qu'ils sont confrontés à des salariés qui viennent, qui rechargent leurs droits pendant 4 mois et puis qui démissionnent, s'en vont du jour au lendemain pour profiter de ces droits rechargés. Et c'est vrai que c'est un problème majeur. La question est de savoir comment on règle ce problème sans pour autant fragiliser les plus faibles.
Oui, en fait, la question de fond qu'il y a derrière toute cette réforme, c'est est-ce que les chômeurs, massivement, dans leur majorité, dans leur immense majorité, abusent du système ou pas. Qu'il y en ait une minorité qui le fasse.
Exactement.
Non seulement c'est possible, mais c'est sans doute le cas et il faut lutter. Le risque, c'est que
on considère que
le chômage, c'est un choix et c'est là qu'est le problème.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec notre invitée, la sociologue Irène Théry.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
La PMA pour toutes en question ce samedi, et si on pouvait faire la preuve qu'on peut débattre de ce sujet avec passion mais sans revivre la folie et les caricatures qui ont accompagné le mariage pour tous, c'est le pari qu'on a décidé de relever cette semaine. Maintenant qu'on sait que l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules est inscrite à l'agenda des réformes des prochains mois, l'invité du grand face-à-face est l'une de nos grandes sociologues, spécialiste de la famille, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et elle défend ardemment la PMA pour toutes. Bonjour Irène Théry.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. On va parler évidemment du fond, des questions que soulève la PMA pour toutes, éventuellement des inquiétudes qu'elle peut susciter chez certains. Mais d'un mot, l'opinion, puisqu'on parlait de l'opinion, pour reprendre l'expression de Gilles Finkelstein, il nous rappelait, Gilles, la semaine dernière, que l'opinion avait évolué au sujet de la PMA pour toutes, que aujourd'hui la majorité est favorable à cette mesure. Est-ce que vous pensez que notre société est prête, aujourd'hui, à avoir un débat, allez, sinon apaisé, du moins serein, sur la question ?
Deux réponses à la fois. Il y a manifestement une partie de l'opinion qui ne veut pas d'un débat apaisé ni serein. C'est clair que la manif pour tous s'est radicalisée, d'une façon qui n'a d'ailleurs pas été assez remarquée par les médias. Pour moi, l'événement des états généraux de la bioéthique d'il y a 2 ans, c'est le fait que la manif pour tous demande maintenant l'interdiction générale du don de sperme, pour tout le monde, y compris pour les hétérosexuels qui en bénéficient depuis près d'un demi-siècle. Donc là, il y a une radicalisation d'un courant très particulier qui manifestement veut en découdre. Mais ça n'empêche pas, je crois, de rêver d'un débat apaisé, si ce débat est un débat pédagogique. Je crois que ce qui avait manqué au moment du mariage pour tous, c'est la pédagogie de la réforme. Il y avait eu pendant des mois et des mois un pouvoir qui se taisait. et qui ne répondait pas aux interrogations. Là, je crois qu'on est plutôt dans une situation où il y a des chances qu'on ait ce débat pédagogique et qu'il aille au fond des choses.
Et bien, moi, je commencer crois... la pédagogie. Est-ce qu'il faut commencer par tout simplement parler de la technique, l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro? Est-ce qu'il faut parler de révolution ou d'évolution dans les structures sociales? Est-ce qu'il faut prendre ça sous l'angle de la filiation? Quelle est
la bonne manière de faire, c'est de prendre assez de recul pour apercevoir quel est l'enjeu sous-jacent à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules. Cet enjeu sous-jacent, pour moi, il me paraît assez évident, c'est la question générale de la fabrication, on va dire, de famille à partir d'engendrement avec un tiers donneur. Je crois que la question de fond, c'est la question du don. C'est la question des familles issues de dons, ce que les Anglais appellent les donor-conceived families, des personnes conçues par don, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a un paradoxe assez ancien, qui est que ça fait donc près d'un demi-siècle qu'on organise ces familles issues de dons, qu'on organise ce don.
Pour les parents hétéros.
Pour les parents hétéros, et qu'on dissimule ce don.
Parce que, en général, on recommande aux parents hétéros qui ont recours à la PMA, pour cause d'infertilité, de ne pas en parler aux enfants.
On l'a recommandé dans le passé, personne ne le recommande plus du tout aujourd'hui. Mais au départ, c'est vrai que quand les médecins ont lancé les premières banques de sperme, en France, les premiers sécos, Georges David, en 73, il y avait l'idée que ça n'était pas très moral de recourir à un don de sperme. Et donc, ces médecins, il faut absolument avoir aucun anachronisme, se sont demandé comment ils pouvaient légitimer en quelque sorte ce don et le rendre acceptable. Et l'idée à ce moment-là a été pour tout le monde, il y a une seule façon de faire, c'est en fait de faire passer les deux parents pour les deux géniteurs de l'enfant. Le donneur, il arrive, il disparaît, ni vu ni connu, ce que j'appelle le modèle ni vu ni connu. Et donc, depuis ce temps-là, il y a une grande évolution en Europe, il y a une grande évolution dans le monde, mais nous sommes très en retard sur ce point. Donc, le grand enjeu pour moi, c'est est-ce qu'à l'occasion de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, on va enfin avoir un débat sur le fait de savoir si nous sommes contre le don, comme la Manif pour tous qui en demande l'interdiction, ou si on est, comme je suis, pour le don, pour les familles conçues par don, pour les personnes conçues par don, pour assumer enfin le don, lui donner un cadre institutionnel, l'organiser, le sécuriser.
Natacha. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de choses déjà dans ce que vous venez de dire. Le fait, en effet, que vous commenciez par dire que la Manif pour tous en est maintenant, elle s'est radicalisée, elle en est maintenant à vouloir l'interdiction du don, mais vous-même placez le problème sur cette question du don, et en fait je pense que ce que la Manif pour tous fait, c'est en effet de s'adapter à ça, et du coup de comprendre que la seule façon de faire valoir ses idées, c'est de demander l'interdiction pour tout le monde. Je pense de toute façon que la Manif pour tous, ce courant qu'on appelle maintenant Manif pour tous, en effet, n'est pas suffisamment nombreux pour empêcher cette évolution.
Elle n'a pas empêché mariage pour personnes du même sexe, l'adoption par les couples de même sexe.
En revanche, il me semble qu'il y a d'autres façons d'entrer dans le sujet et qui sont problématiques. Et ça mérite, même si la loi va passer, ça mérite de se poser la question des implications. Par exemple, l'aide médicale à la procréation, telle qu'on l'appelait autrefois, était adressée à des couples pour cause d'infertilité. Aujourd'hui, les militants qui réclament l'ouverture de la PMA à toutes les femmes disent c'est un simple droit supplémentaire, il n'y a pas de raison que la PMA ne soit pas proposée à ces femmes, et si elle ne l'est pas, c'est en raison de leur orientation sexuelle ou du fait qu'elles sont seules. Mais non, c'est simplement que l'aide médicale à la procréation règle la question de la fertilité. Or, ces autres femmes ne sont pas infertiles. C'est donc toute la question de savoir à quoi ça... Quel est le projet
J'ai bien compris, vous entrez tout à fait dans le cœur du débat que je voulais poser. Parce que si on prend le temps de revenir justement sur l'histoire longue de ces 50 ans de procréation médicalement assistée, on voit bien qu'il y a toujours eu deux PMA. Il y a une PMA, et vous avez raison de le souligner, thérapeutique, qui est faite pour soigner des infertilités pathologiques pour des couples hétérosexuels en âge de procréer. C'est à peu près aujourd'hui 90 à 95% des PMA. Mais la PMA sur laquelle nous discutons, justement, est une PMA qui a toujours été une PMA qu'on pourrait dire sociale. La PMA,
en quel
le
sens
don, au sens où le don ne soigne rien. Le don, c'est ce qu'on propose justement aujourd'hui à des couples hétérosexuels quand on est en échec thérapeutique. On leur dit, au fond, il y a encore une autre solution que de vous traiter, c'est de recourir à une tierce personne qui va donner de sa capacité procréatrice pour vous permettre à vous, où l'un va procréer l'autre pas, d'avoir un enfant. Donc le vrai sujet, c'est celui-là. C'est que depuis très longtemps, on a cette PMA sociale, cet arrangement social, qui existait d'ailleurs avant les banques de sperme, ça existe depuis le 19e siècle, et donc qui n'est pas spécialement lié à la technique, même si aujourd'hui, bien sûr, la fécondation in vitro joue son rôle. Et donc, la question, c'est ça. Est-ce qu'on engendrait avec l'aide d'une tierce personne ? Ça n'est pas un traitement, ça a été transformé, on va dire, présenté comme ça au moment des lois de bioéthique de 94, où c'était une sorte de gamète médicament. Mais le sujet qui était mis sous le boisseau et qui revient, c'est bien celui-là. La légitimité de faire une famille en recourant à un tiers donneur. Donc je pense qu'effectivement, si on aperçoit qu'il y a toujours eu de la PMA sociale, on est beaucoup moins inquiet, il n'y a pas cette rupture.
Natacha va vous répondre.
Les lesbiennes veulent faire, au fond, ce que les autres peuvent faire, c'est-à-dire, quand on ne peut pas procréer ensemble, on peut recourir à un tiers donneur, elles se sont bien aperçues que ça pouvait les concerner aussi.
Pourquoi pas nous, au fond?
Bien sûr, pourquoi pas nous?
Natacha, puis oui. Gilles Finkelstein.
À ceci près qu'en effet, ça change derrière la question même de la filiation, puisque c'est la question de savoir, en fait, un couple hétérosexuel qui a recours à un don de gamètes, ça reste cette idée que le principe masculin et le principe féminin concourent à la fécondation. Quand on accepte en effet l'idée que des femmes seules ou des couples de lesbiennes vont pouvoir demander cette aide médicale à la procréation, on rentre dans l'idée que la filiation relève de la volonté. Et là, il faut se demander, en effet, ce que nous acceptons dans ce cadre-là et ce que nous n'acceptons pas. Puisque aujourd'hui, si on regarde par exemple aux États-Unis, en effet, la filiation est fondée sur la seule volonté. Et c'est ça qui permet d'accepter la GPA ou ce genre de choses.
Restons sur la PMA, parce que c'est vrai que le glissement est très rapide d'un sujet à l'autre. Mais ce n'est pas
un glissement, c'est la question de savoir si nous estimons que la filiation relève de la volonté individuelle ou si elle a un lien avec biologie, les capacités physiques, c'est tout.
On est à un moment
tout à fait passionnant de ce débat, je dois le souligner, parce qu'on est au moment où on en sait assez, on va dire, sur le projet de loi, pour se rendre compte qu'il est possible que ce gouvernement soit le gouvernement qui va être celui qui a donné une place au soleil, on va dire, ou dans nos institutions, aux familles conçues par dons, issues de dons, et aux enfants issus de dons. Mais on n'en est pas tout à fait certain. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, donc, sur les deux grands sujets qui ont à voir avec le don, qui montrent que j'ai bien raison de poser cette question, c'est-à-dire l'accès aux origines, qui est une question générale, qui concerne tout le monde, homo, hétéro, marié, non marié, et l'établissement de la filiation, sur ces deux sujets, nous avons deux options qui ont été proposées par le gouvernement au Conseil d'État. Et donc, je pense que si on parle assez concrètement de chacune de ces deux options, on voit bien que derrière ça, on a une question politique majeure. Que moi, j'exprimerai de la façon suivante. Ce à quoi me fait penser l'enjeu actuel, c'est aux grandes réformes des années 70. Autorité parentale conjointe, égalité des enfants naturels et légitimes, avortement et divorce par consentement mutuel. Donc, les réformes qui ont été menées par une droite, on va dire, libérale, moderniste, Pompidou d'abord, Giscard ensuite. Avec des réformes qui ont été menées avec l'appui de la gauche, qui en voulait toujours plus, c'est vrai, mais qui a appuyé ces réformes, sans laquelle elles n'auraient pas été votées, et avec une opposition, mais virulente, d'un secteur, justement, catholique, très traditionnaliste. Donc, on a quelque chose à voir avec cette période-là aujourd'hui, et ça m'intéresse de me dire, est-ce que, finalement, le gouvernement actuel va être à la hauteur de ce qui a été fait dans les années 70, des très grandes réformes dans lesquelles on s'est quelquefois affronté, mais pour du sens profond, ou s'il va essayer de faire des compromis avec un passé sur lequel on pourrait, je pense, réformer en référence à des valeurs très profondes.
Gilles Finkelstein.
Oui, le fait maintenant qu'il y a un calendrier fait, je l'ai dit la semaine dernière, qu'on sort du débat sur le quand pour rentrer dans le débat sur le quoi et la dimension pédagogique est extrêmement importante parce que ces débats sont des débats complexes et que pour l'instant, autant on sait qu'on va avancer vers la PMA, autant les modalités restent très ouvertes avec des options qui sont des options positions très différentes, notamment sur les deux sujets principaux, la question de l'anonymat et la question de la filiation.
Il y a derrière... Avancer vers la PMA, mais est-ce que pour vous la PMA ouverte à toutes les femmes, ce serait un progrès? Un avancement.
Oui, la réponse est oui. La question des modalités derrière, notamment est-ce qu'il y a une discrimination entre les différentes familles, les différents couples? Est-ce que l'on traite de la même manière? Il y a plusieurs options qui sont possibles. C'est est-ce qu'on traite de la même manière l'ensemble des enfants nés de PMA? Est-ce que l'on traite de la même manière l'ensemble des couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels? C'est deux options qui, en termes de filiation, ont des incidences qui sont différentes. Et puis, il y a une troisième question qui a été esquissée par Natacha tout à l'heure et qu'elle avait évoquée la semaine dernière, qui est celle du remboursement.
On va y venir à la question du remboursement de la PMA, parce que c'est encore un autre problème, mais parlons d'abord des questions philosophiques ou sociales que ça pose. Donc, pour vous aussi, Irène Théry, c'est une question, c'est un progrès.
Je pense que, bien sûr, pour moi, c'est un progrès si on comprend que ça fait partie d'une question plus générale qui est ces familles conçues par un don, issues d'un don, que nous organisons depuis 50 ans, que nous maquillons en pseudo-procréation du couple receveur depuis 50 ans, dont l'immense majorité des 80 000 enfants qui en sont nés ne savent pas qu'ils sont nés d'un don. Parce qu'on est resté sur l'idée qu'il fallait absolument mimer le modèle, le père, la mère, les enfants biologiques.
Oui, mais vous n'avez pas répondu à Natacha sur la question biologique, justement.
Je vous réponds tout à fait.
Et l'argument, on ne naît pas de deux femmes.
Donc, on va venir à la filiation, si vous voulez bien, à partir des deux.
C'est pas exactement ça, mais c'est l'un des arguments.
Vous avez dit, on va vers une filiation de pure volonté. Donc, je ne pense pas du tout, mais avant d'en venir à la filiation, peut-être parlons de l'accès aux origines, parce que c'est un débat beaucoup plus ancien. On a failli avoir un accès aux origines à la précédente rénovation des lois de bioéthique, pour des raisons compliquées d'incompréhension de la demande des personnes conçues par don qui étaient encore assez peu nombreuses.
Pour que tout le monde comprenne qu'un enfant né de la PMA puisse, par exemple, à sa majorité, à 18 ans, savoir l'identité de
la personne, du donneur ou de la donneuse.
Voilà, on ne dit pas du père biologique.
Non, certainement pas, justement.
Donc du donneur de sperme.
Donc ce que je voudrais dire, parce que c'est une information qu'apparemment la presse n'a toujours pas, c'est que, d'après mes informations en tout cas, deux options ont été proposées par le gouvernement à la réflexion du Conseil d'État. Donc, une option, on va dire, très claire, très simple, le fait que la France, après la Suède, la Suisse, l'Autriche, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Finlande, le Danemark, l'Irlande, etc., accordent aux personnes conçues par don le droit d'accès à leurs origines, à leur majorité. Certains proposent même plus tôt, il y a eu un sondage récemment qui donnait que 75% des Français favorables à cet accès.
Mais en tout cas, que ce soit un droit accessible à un enfant né de PMA. La deuxième hypothèse.
Ça, c'est une des options. L'autre option est beaucoup plus basse, on va dire. Ça consisterait simplement à permettre que, sans rien changer, en quelque sorte, à leur majorité, les personnes conçues par don puissent faire interroger le donneur ou la donneuse pour savoir s'il serait prêt ou non à donner son identité. Donc on voit bien que dans les deux cas, il y a quand même un progrès, c'est-à-dire on est dans l'idée, un accès aux origines peut être accordé, mais dans un cas c'est un droit, et dans l'autre cas c'est une possibilité éventuelle soumise à un agrément au bout de 20 ans. C'est-à-dire que pendant 18 ans, la personne ne saurait pas si un jour ou l'autre elle aura accès. Ou dans une famille, eh bien pour les différents enfants nés d'un don, n'auraient pas forcément le même destin, par exemple.
Mais derrière cela, vous disiez justement non, ce n'est pas le père biologique, le donneur.
Bien sûr, c'est un donneur.
Oui, c'est un donneur. Mais du coup, nous sommes bien d'accord que ça modifie la perception que nous avons en effet de la filiation, dans la mesure où celui qui est biologiquement à l'origine de la naissance n'est pas le père. Et en effet, nous étions jusqu'à présent dans une espèce de compromis entre le droit et la réalité biologique. Et on avait décidé dans les familles dont vous parlez, qui étaient des familles à l'époque hétérosexuelles, que en gros le fait que le père soit le mari de la mère mettait en place une présomption de paternité, qui masquait ce don dont vous parlez.
Et on est bien
d'accord. Qui masquait aussi la vie, le libertinage, la possibilité d'avoir des aventures.
On peut se mettre d'accord au moins sur un
don. Nous sommes en train de faire évoluer ça. Et en fait, c'est un ensemble d'évolutions. Et c'est ça qui est très intéressant.
C'est un progrès pour vous, Natacha, ou pas? C'est un progrès pour toutes les femmes? Non, parce que c'était l'expression qui était employé et par Irène Théry et par Gilles.
Oui, mais progrès, non, c'est vous qui avez posé la question.
Déjà,
mais...
sur l'accès aux origines, est-ce que vous pensez que c'est un progrès que des personnes conçues par don puissent savoir de quelle, à qui elles doivent la vie, à leur majorité, si elles le demandent, si elles le souhaitent?
Je vais vous dire, je ne sais pas, je ne me vous pose pas la question en termes de progrès. Je pense
non, mais
en
est-ce
effet...
que vous pensez que c'est bien
non, mais attendez,
ou pas?
C'est pas la question n'est oui, pas là. La d'accord, question est de comprendre ce que ça implique. Nous sommes en train de vivre une évolution. Cette évolution va apporter des choses positives. Et en effet, je pense que quand on voit la souffrance d'enfants nés de dons qui n'ont pas accès à leurs origines, en effet, on peut se dire que il y avait là un nœud. Qui était un nœud psychologique absolument profond, donc il fallait régler,
c'est
il faut régler ce problème.
C'est pas seulement la souffrance,
attendez,
Natacha.
Si je peux terminer, oui, je ne vois pas pourquoi la question à se poser est en termes uniquement de progrès global. On peut se poser la question de se dire il va y avoir des avancées, des choses positives, essayons d'anticiper les problèmes que ça va poser. Non, c'est tout,
juste...
ça me semble normal.
Non, je voudrais juste dire une chose.
Irène Théry, puis Gilles Finkelstein.
Avec les meilleures intentions du monde, on comprend, c'est pour ça que j'ai cité tous ces pays qui ont changé. Au début, on a dit, on organise le don, on le dissimule. Ni vu ni connu, le donneur disparaît comme il est venu. Du coup, le donneur restera un donneur, le père sera un père. Aujourd'hui, on pense qu'on peut faire les choses autrement, c'est-à-dire en assumant tout simplement, d'un point de vue institutionnel, que le donneur est un statut qui ne suppose pas la filiation. Les seuls parents, c'est les parents qui ont recouru au don. Donc, ce que je veux dire par là, ce qui me paraît très important, les personnes conçues par don, elles prennent la parole aujourd'hui. Il y en a 100 qui ont signé l'appel pour l'accès aux origines et les droits de l'enfant. C'est quelque chose de tout à fait... Et qu'est-ce qu'elles disent?
On verra d'abord ce qu'en dira le Conseil d'État, et puis ensuite ce qu'en penseront les députés, les sénateurs. Mais
ce qu'elles disent, c'est qu'on ne peut pas fabriquer une catégorie de personnes à part de tous les autres, la seule qui, par définition, ne pourrait pas avoir de réponse par le seul fait de l'État à la réponse à la question à qui dois-je d'être né.
Gilles Finkelstein.
Voilà, donc de ce point de vue-là, je crois que ça n'est pas une question de droite, de gauche, voyez ce que je veux dire. On peut se mettre d'accord sur ce point, que ce serait un progrès par rapport au temps où on s'est dit, bon, on va un peu mentir à l'enfant, il va pas trop savoir ce qui se passe, etc. Mais les vaches seront bien gardées. Ça, je crois que c'est un progrès du respect de l'identité narrative de l'enfant.
Oui, je crois qu'il y a une évolution de la société très profonde avec un souhait de connaître ses origines beaucoup plus fort que ce n'était le cas auparavant, parfois même une utilité, une nécessité médicale pour avoir sur la dimension génétique. Mais je crois qu'il faut l'assumer, d'abord parce qu'on voit là où ça a été fait qu'il n'y a pas de confusion, contrairement aux craintes que l'on pouvait avoir, entre ce que sont les parents et ce qu'est le donneur, et qu'il n'y a pas de crainte non plus à avoir sur la chute des dons qui aurait pu être une des conséquences. En revanche, moi j'avais deux questions pour Irène Théry. La première, c'est si on lève l'anonymat sur le don, il y a la question du passé. Ceux qui ont déjà eu don avec des donneurs qui avaient la garantie de l'anonymat. Comment on traite cette question-là? Et puis la deuxième question, si on dit qu'il y a un droit à la majorité, à la connaissance de ses origines, mais qui n'est pas un droit à la rencontre.
Oui, tout à fait.
Avec ce que sont les technologies d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment on fixe la limite?
Alors d'abord, très rapidement, sur les dons passés, c'est là que je trouve que la proposition, la deuxième option, celle qui consiste à la majorité à demander au donneur ou à la donneuse s'il est d'accord, convient très bien pour le cas des dons passés. Parce qu'effectivement, la loi n'est pas rétroactive. Les donneurs ont donné sous le régime de l'anonymat, à eux de le lever s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est la première... Et donc, les Anglais, quand ils ont modifié leur loi en 2005, ont prévu justement la possibilité de façon volontaire de se faire connaître dans un registre, etc.
L'avancée des technologies qui permettrait de toute façon d'avoir
l'autre sujet sur le droit à la rencontre,
cette origine.
Je comprends que ça inquiète. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a un droit à l'information, mais qu'il n'y a pas de droit à la rencontre. Que pour la rencontre, il faut être deux à la vouloir. Que les donneurs ont un droit au respect de leur vie privée. S'ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui fasse irruption dans leur vie, c'est tout à fait leur droit. Donc, comment on fait? Eh bien, c'est là qu'il y a une expérience très intéressante, qui est l'expérience du CNAOP, Conseil national d'accès aux origines personnelles.
Merci.
Créé par Ségolène Royal en 2002, et qui est sur un sujet beaucoup plus complexe et beaucoup plus douloureux, parce que
Restons
c'est
sur celui de la PMA, c'est déjà suffisamment complexe, et on va quitter la question de la purification.
Sur un sujet beaucoup plus douloureux, on a l'expérience que quand on retrouve...
Des naissances sous X.
Voilà. Une personne, la mère biologique en l'occurrence, qui ne souhaite pas être rencontrée, bien qu'elle soit identifiée, ce souhait est respecté. et respecté. C'est-à-dire, nous, c'est un fantasme qu'on a, que les jeunes voudraient arriver de façon violente, de façon agressive, etc. Et donc, je pense que cette expérience qui a maintenant déjà assez longtemps, de plus de 15 ans du CNAOP, fait que on n'a pas de raison de s'inquiéter d'un non-respect. Mais Natacha, ça veut dire aussi qu'il faut un organisme médiateur. Ça,
on va en rester là, parce que c'est vrai qu'il y a des tas de questions procédurales ensuite qui vont arriver, mais on n'y est pas encore, on ne sait même pas ce que tranchera le Conseil d'État, ni ce que voteront finalement les députés.
Tout à fait, mais on essaye de débrouiller.
Je pense pour ma part que cette question, en effet, de l'accès aux origines, est celle qui fait le moins problème, justement parce que on avait constaté qu'il y avait un problème et qu'il fallait le régler.
Mais la question du désir d'enfant qui deviendrait un droit.
Alors maintenant, venons-en à ce qui est plus complexe.
C'est ça, c'est
plus complexe. Il nous reste très peu de temps, malheureusement.
Alors sur la filiation, on va dire aussi...
Natacha, d'abord.
Voilà. Vous avez posé la question d'une filiation d'intention. Ce que je crois, ce qui est très important à rappeler, c'est que la filiation aujourd'hui, le lien de filiation, il est très consensuel.
Qu'est-ce que ça veut dire, une filiation d'intention?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir évoluer la conception de la filiation vers l'idée que c'est l'intention qui crée la filiation.
Autrement dit, deux femmes peuvent être...
Parce qu'elles ont l'intention, elles sont
les
mères.
Parents d'un enfant.
Cette filiation d'intention pose évidemment moins problème pour la PMA que pour la GPA, où là aussi c'est une filiation d'intention, mais il y a derrière... un processus qui est complexe. Or, il faut se poser la question des conséquences que ça.
Il nous reste 4 minutes.
Sur la filiation,
si vous voulez bien. Bien sûr.
Donc, il y a deux options qui sont posées là encore devant le Conseil d'État. Deux options qui sont posées et l'une d'entre elles, je trouve particulièrement intéressante, consiste à pluraliser les modalités d'établissement de la filiation.
Waouh.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas si compliqué que ça.
Alors, expliquez-nous.
Ça veut dire, il y a la filiation, ça fait une grande unité en France. Les droits, les devoirs, les interdits de la filiation font totalement unanimité. Les grandes valeurs contemporaines de la filiation, engagement inconditionnel, amour inconditionnel, indissoluble envers l'enfant, font l'unanimité. Ça devrait rassembler les Français. Simplement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une seule filiation, mais il peut y avoir plusieurs façons, pas tant que ça, trois façons de l'établir. La filiation, là-dessus, Natacha, nous serons d'accord, c'est une institution. Il faut endosser un statut. On ne se donne pas à soi-même ce statut, il faut que la société le reconnaisse. Non, il faut endosser un statut, mais il y a plusieurs raisons de l'endosser. Donc il y en a une qui est reconnue par le titre 7 du Code civil. Je me reconnais parent de cet enfant, ou nous nous reconnaissons parent de cet enfant, nous endossons le statut parce que nous l'avons fait. Ça, c'est le titre 7. Et effectivement, c'est l'immense majorité des cas. Les parents sont ceux qui ont fait l'enfant. Et faire l'enfant, c'est pas juste biologique, c'est chargé de sens, c'est se préparer à être parent. Il y a une autre façon de devenir parent. Nous ne reconnaissons pas parent de cet enfant que nous n'avons pas fait, qui existait, mais que nous avons adopté. Filiation du titre 8. Ce qui n'a pas de place pour le moment et qui ne se retrouvera ni dans la procréation par le couple ni dans l'adoption, c'est justement l'engendrement avec tiers d'honneur. Nous nous reconnaissons parents de cet enfant que nous avons engendré avec l'aide d'une tierce personne qui a donné de sa capacité procréatrice pour nous permettre de le faire. Donc le grand enjeu sur le don, c'est de dire, est-ce qu'il y a une place pour cet engagement parental-là qui est pris en commun? Et donc c'est très important, parce que les deux valeurs que vous opposez un peu, le biologique, le social ou l'intentionnel, dans un même couple, pour un même enfant, pour un même projet, sont liées.
Falloir penser leur articulation et que c'est très complexe.
Et je pense que cette articulation peut se faire.
Gilles.
Si on aperçoit très concrètement ce qui se passe aujourd'hui, les couples doivent aller devant un notaire pour consentir au don. Au moment où ils consentent au don, ce qui est obligatoire, pourquoi ne s'engagerait-il pas, tout simplement, à devenir les parents de l'enfant qui va naître de ce don auquel ils ont consenti? Si on reconnaît qu'il y a un engagement au moment où on consent au don à la filiation, eh bien les choses deviendront très simples et les enfants ne seront plus manipulés par une pseudo-filiation charnelle.
Il nous reste une minute, Gilles.
En un mot, la filiation par tiers d'honneur, elle existe déjà pour les couples hétérosexuels. Et donc quand il y a un couple marié, il y a une présomption de paternité.
C'est une pseudo-filiation charnelle.
L'amour est enfant de bohème.
Et quand ils ne sont pas mariés, il y a une reconnaissance. Donc la question avec l'extension de la PMA, c'est est-ce que l'ensemble des enfants issus de PMA sont traités selon le régime avec une déclaration ou est-ce que il y a selon le régime ils sont mariés ou pas, on traite les couples de la même manière? C'est ça le débat.
On va devoir en rester là. Les deux débats qui devraient être tranchés. En tout cas, bon courage aux membres du Conseil d'État. Ils ont des questions vertigineuses à trancher et ce n'est que le début. Merci en tout cas vraiment Irène Théry de nous avoir permis d'apprendre rapprocher quelques-unes des questions passionnantes suscitées par l'ouverture de la PMA pour toutes. Natacha et Gilles, merci, ravi d'avoir partagé cette saison avec vous. C'est un vrai bonheur de travailler tous les samedis à vos côtés et je vous donne rendez-vous donc à la rentrée. Un immense merci à la fantastique Mathilde Clatt qui prépare le grand face-à-face, à la réalisation Alicia Vullot, à la technique Nicolas Cazot. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques à suivre sur France Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.